Pour la première question, juste une petite précision, j'ai juste oublié de vous dire que le pays où je suis allé, il s'agit du Burkina Faso, ça vous l'avez deviné, du Niger, du Mali, du Sénégal et du Bénin.
Bon, je peux faire la distribution de paroles.
Il y a quelqu'un qui lève le doigt là-bas derrière.
Oui, vous avez une question un peu personnelle pour vous. Vous dites que vous avez vécu 6 ans en Amérique du Sud. Oui. Pourquoi avoir choisi de faire un livre sur l'Afrique?
Bien sûr, parce que voilà, justement, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique du Sud, comme il n'y a pas que l'Europe, il y a l'Afrique. Et puis pour vous faire une confidence, je compte partir au mois de novembre pendant 3-4 mois en Inde et en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. L'Afrique, en fait, l'idée m'est venue de ce livre sur l'Afrique lors des débats. Il y avait du séjour en Amérique du Sud, si vous voulez, j'ai écrit un bouquin sur les disparus du Pérou. Enfin, comme j'ai vécu au Chili, je connaissais bien à l'époque de Pinochet, pour être précis, sous la dictature de Pinochet. Je connaissais très bien des femmes de disparus, je change totalement de sujet, mais des femmes de disparus chiliens. Et j'avais été amené à écrire des articles à ce sujet. Et j'ai voulu, elle m'a dit, mais pourquoi ne pas écrire un livre là-dessus? Donc j'étais parti avec cette idée-là au départ. Je suis allé au Chili, je suis allé en Argentine, je suis allé au Pérou et en Bolivie. Et je me suis rendu compte, disparu chilien, disparu argentin, tout le monde connaît et a entendu parler, et tant mieux, parce que ça vient du type de disparu aussi, ce sont des ouvriers, des intellectuels, des étudiants, etc., qui se sont réfugiés en France, en Europe, et qui ont pu faire passer leur message. Puis la situation chilienne était très particulière, évidemment. Je suis peut-être un peu trop loin du micro, là. Et voilà. Et donc, j'étais amené à connaître le Pérou, et à découvrir qu'au Pérou, il y avait eu 10 fois plus de disparus au Pérou qu'au Chili. Il y a eu entre 12 et 15 000 disparus au Pérou dans la guerre qui a eu lieu entre 1980 et 2000, entre le sentier de Mideux et l'armée péruvienne. Bref, j'ai donc écrit un bouquin à ce sujet-là. J'ai été amené à le présenter, à faire des soirées. Et lors de ces soirées, en présentant le bouquin, j'expliquais que justement la majorité des disparus péruviens, j'y viens, étaient des Indiens. Des Indiens de l'Altiplano, donc des hauts plateaux péruviens, ou de l'Amazonie. Des Indiens qui étaient méprisés et victimes d'un racisme très fort dans leur propre pays, au Pérou même. Donc, les Indiens disparus ne comptaient pas, n'avaient aucune importance au Pérou même, encore moins au niveau international. Donc, je citais des passages dans le livre du racisme vis-à-vis des Indiens. Et je ne sais plus qui, à l'occasion d'une soirée, m'a dit « Mais en France, on n'en est plus là. » Il me semble avoir montré que c'est encore le cas, pourtant. Voilà, c'est là où ils ont dit « On n'en est plus là, on n'en est plus là, c'est vrai, ça. » Et en fait, en piochant un peu, c'est d'où l'idée de ce bouquin, d'où l'idée d'aller, j'avais très envie de connaître l'Afrique de l'Ouest, je connaissais d'autres pays en Afrique évidemment, un peu comme tout le monde, Maroc, Tunisie, Égypte, etc., le Cap-Vert, mais je ne connaissais pas l'Afrique de l'Ouest plus précisément. Voilà.
Un thème qui m'intéresse, c'est l'accaparement de terres. Est-ce que tu as eu des contacts avec des groupes de résistance par rapport à ce thème? Et une autre question, au Forum social mondial à Porto Alegre en 2001-2002, il y avait des théoriciens d'Afrique qui parlent de déglobalisation. Est-ce que c'est encore un thème de couper l'orientation de l'Afrique et l'Asie et de l'Amérique latine vers les pays industrialisés et de se faire un développement solidaire entre eux, entre pays en développement? Est-ce que cette théorie est encore en vogue ou est-ce que c'est complètement dessoué maintenant?
On va parler de l'accaparement des terres. C'est un problème typique, justement, de l'Amérique latine, le problème des terres, la répartition des terres. J'ai été amené à ce sujet-là avec Ousmane Tsendé Béongo, dont je parlais, qui a donc créé un syndicat paysan et qui lutte contre l'implantation des OGM au Burkina Faso. Et il m'expliquait qu'il y avait... il faudrait reprendre toute son histoire, mais il l'explique depuis le début... qu'en effet, de plus en plus, c'est un véritable problème, le problème de la terre maintenant en Afrique, comme ça l'était en Amérique latine. l'accaparement des terres est une réalité qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en effet, de plus en plus. Ça n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années de ça, mais maintenant c'est devenu un vrai problème, comme ça l'était depuis de nombreuses années en Amérique latine. Alors, dans le cas du témoignage d'Ousmane Tiendré-Léogo, donc au niveau justement de l'implantation des OGM, c'est pas très vieux, hein, je crois que les premières expériences OGM, c'était en 2001, je crois, avec Monsanto, évidemment. Et puis les essais à une échelle importante, je crois, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est 2005-2006. Mais pour lui, tout a été organisé en amont pour parvenir à l'expropriation des terres des petits paysans africains. Alors, par des méthodes, il parle de la Sofidex, je crois, etc., qui est un organisme important de la récolte de coton. Hein, c'était, je crois, 80-90% du coton de Burkina passe par cette entreprise. Qui a été privatisée d'ailleurs, etc., et qui a organisé l'expropriation des terres des petits paysans. Alors ça serait assez compliqué d'expliquer quel est le processus, mais lui il l'explique très bien dans son témoignage, mais en effet c'est devenu un réel problème. Je sais qu'il y a aussi Samba Tembeli de la CAD Mali donc, qui se bat pour l'annulation de la dette, qui m'a expliqué aussi que le problème des terres, l'accaparement des terres était devenu un véritable problème, qu'on parle beaucoup de l'expropriation des petits paysans en Amérique latine, mais pas suffisamment de ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest. C'est exact. Surtout que c'est une culture vivrière, hein, qui est d'ailleurs assurée à 80% par les femmes. Et donc l'expropriation conduit à une aberration, mais ça, il faudrait le voir et citer Jean Ziegler à ce niveau-là, qui a écrit d'excellents livres sur le sujet. Alors, la deuxième partie de la question, c'était, est-ce qu'il y a...
La déglobalisation.
Je ne saurais pas répondre à cette question, tout simplement. Oui ?
Moi, je peux répondre.
Allez, vas-y, vas-y.
Bon, d'abord, je me présente. Hugues Robert, je suis journaliste, mais je suis parti 2 ans au Togo. Alors, d'abord, je suis journaliste, mais j'aime bien être sur le terrain. Donc, je me suis fait d'abord embaucher dans une entreprise, vous allez tous bondir, d'engrais chimiques. Et ensuite j'ai travaillé la deuxième année dans l'agroécologie, donc pour un peu situer. Et c'est vrai que dans l'agrochimie, c'est bon, d'une part j'ai vu, je dis pas l'esclavage, parce que je dirais presque l'esclavage, c'est presque mieux, parce que le propriétaire il a intérêt à garder sa force de production intacte, alors qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les gens étaient payés non seulement au poids ou à la journée, mais dès qu'ils tombaient malades, on les jetait. Et effectivement, pour dire, le système actuel, puisque c'est de 2010 à 2012, j'ai écrit un bouquin sur ça, mais que je ne publierai pas pour le moment, parce qu'autrement, je ne serai plus là. Donc, pour dire que l'expropriation, c'est quelque chose qui existe de manière, je dirais, colossale en ce moment. Et alors, il y a les deux phénomènes, c'est-à-dire que il y a la résistance, il y a la société civile qui est en train de résister, effectivement, mais il y a aussi des grosses entreprises qui achètent 5 000, 10 000 hectares, et qui, effectivement, avec des villages qui sont complètement expropriés, et aujourd'hui, qui viennent d'ailleurs souvent de capitaux d'Afrique du Sud, ou d'Australie, ou des États-Unis, et qui, effectivement, exproprie de manière radicale toutes les terres des paysans. Et il y a aussi un autre processus auquel j'ai assisté, c'est les rizières. Au Togo, il y a des superbes rizières, et le système est très simple. Ils amènent des bateaux de riz, ils cassent le marché, et ils jettent les paysans, et ils rachètent toutes les rizières qui sont des rizières qui avait été construite il y a presque 2 siècles. Voilà. Donc il se passe aussi ça, et il se passe effectivement des phénomènes de résistance, et que j'ai vu effectivement plutôt dans ma deuxième année au Togo, qui est lié d'ailleurs, parce que dans le Burkina Faso, vous savez que Sankara a été assassiné par les Français, et qui travaillait avec Rabit sur l'agroécologie. Et effectivement, il y a des phénomènes de résistance qui sont venus du nord, pour moi c'était le nord Togo, à partir effectivement du travail que Rabhi et Sankara avaient fait par rapport à ça. Voilà, donc je dirais qu'il y a en ce moment les deux phénomènes, c'est pour ça que son livre est aussi très intéressant, c'est que la société civile est en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a une société civile qui est en train de résister, de se mettre en place. Et il y a effectivement, nous sommes toujours là, nous sommes toujours très présents, c'est-à-dire que nous sommes en train de piller, de continuer à piller, et je trouve que les premières phrases qu'il a dites, je les ai entendues par la France-Afrique et par les Français, et par d'autres, ben, ça existe encore, mais il y a une société civile qui en ce moment, et moi j'ai été pendant le printemps de Tunisie, je leur disais... Le printemps de l'Afrique est en train aussi de se préparer, et ça, on ne peut que l'espérer, parce que j'ai vu des choses absolument abominables.
Je voudrais juste ajouter quelque chose. Lorsqu'on voit d'ici l'Afrique, on voit peut-être des Blancs qui vont faire de mauvaises choses en Afrique et tout. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'on n'a même plus besoin de se déplacer. Et il suffit pour ça de prendre ce que la nature a donné aux hommes depuis la nuit des temps, c'est-à-dire la semence, c'est-à-dire la capacité à garder un petit peu pour planter plus tard, et donc à être en autarcie, soit tout seul, sa famille, ou un clan, un village, une petite région. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les semences et les denrées alimentaires commencent à être de plus en plus cotées en bourse. Et donc, c'est les bourses qui décident. Et on se rappelle peut-être la famine qu'il y a eu en Égypte. Je suis intimement persuadé que c'est les marchés financiers qui ont organisé les pénuries, organisent les révoltes, organisent tout ça, organisent les faillites, et après, les capitaux arrivent pour reprendre derrière très facilement. On n'a même pas besoin de violence. Et je pense que ce qui est le plus préjudiciable, mais pour nos paysans ici aussi, c'est le fait que la financiarisation des semences avec l'apport des apports chimiques qui sont obligatoires avec rachat de ce qui va permettre de replanter, c'est ce qui permet aux financiers de tout poil et du monde entier de tuer les micro-sociétés. Et vous parlez de globalisation. Je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter la globalisation si on n'arrive pas à enrayer la mise sur les marchés des denrées, et que ce soit un système boursier. C'est ça qu'il faut casser.
Oui, juste, tout à fait d'accord. Juste une petite précision, c'est exactement ce qui se passe avec les semences OGM, justement. C'est exactement ce qu'expliquait Ousmane. Qui expliquait que le petit paysan, en effet, sa seule richesse, c'est les semences qu'il a. Et à partir du moment où ce sont les semences OGM, il est obligé de les payer, en fait. Il est obligé de les acheter. Et le prix, je ne sais plus quand, en 2008, ils ont appris le prix, c'était 10 fois plus cher, 30 fois plus. 30 fois le prix des semences naturelles, le prix des semences OGM. Donc ils sont complètement pris à la gorge, ils sont criblés de dettes, et c'est comme ça qu'ils se font exproprier, c'est comme ça qu'en effet les grands groupes multinationaux récupèrent les terres, les immenses superficies. En effet, bon, le problème fondamental, il est là. En effet, c'est juste.
Ça marche ?
Oui.
En fait, moi, je ne suis pas bien d'accord avec tout le monde. C'est que quand vous dites qu'il n'y a plus besoin de se déplacer, alors ça, c'est une très grosse erreur pour moi. Et les préjugés, ils viennent vraiment de là. C'est-à-dire que qui parle de l'Afrique, c'est des Blancs. Je suis désolée, mais vous avez vécu quelques mois. J'ai vécu 10 ans, il a vécu 20 ans. On a tous été des fois 15 jours, 3 semaines. C'est pas nous qui pouvons parler de l'Afrique, parce que nous, on l'a vu par une certaine fenêtre, chacun a eu son vécu, sauf qu'on comprend pas forcément tout. D'abord, c'est pas l'Afrique, c'est des multitudes de sociétés africaines qui sont extrêmement complexes, et que je suis désolée, mais si on n'y passe pas énormément de temps, mais vraiment énormément de temps, si on si on ne vit pas, si on n'apprend pas les langues, si on ne fait pas l'amour avec les gens, si, etc., vivre, je veux dire, eh ben, tout nous échappe. C'est-à-dire que ce qu'on dit ce soir, ce n'est pas, c'est pas franchement l'essence même de ce qui se passe là-bas. Et que, alors aujourd'hui, ce que je dis, ce n'est pas du tout à la mode, parce que dès qu'on est blanc, qu'on fout les pieds en Afrique, on est forcément un néocolonialiste. Alors, je suis désolée, mais ça, ça fait partie des préjugés. C'est-à-dire que si on ne va pas sur place et qu'on ne cherche pas à se mélanger avec les gens pour essayer de comprendre bah, comment eux, ils vivent les choses qui nous paraissent normales, et ben non, c'est pas une norme internationale, il y a des choses qui sont normées par rapport à nos cultures, et dès qu'on change de culture, bah, on n'est plus dans la même norme. Et ça, si on ne s'y confronte pas au quotidien pendant des mois, des années, on ne peut même pas le sentir. Et ce que je veux dire, c'est que, alors, le préjugé qui est de dire, toi t'es blanc, tu vas en Afrique, bah, peut-être, mais ça c'est comme dire tout est blanc ou tout est noir, c'est à un moment donné, il faut essayer de retirer un petit peu toutes ces idées reçues, et même si on y va qu'un jour, non, on ne fait que rien comprendre, et déjà au bout de 10 ans, on se dit, bah, il y a encore tellement de questions qu'en fait, j'en ai plus qu'avant, et puis peut-être que 20 ans après, c'est encore la même chose, j'en sais rien, mais de grâce... si on veut parler de l'Afrique, invitons des Africains, quoi. Vraiment. Notre salle, là, il faudrait qu'il y ait au moins, je sais pas, au moins une dizaine d'Africains qui viennent parler de comment eux, ils vivent les choses, comment leur représentation des choses, qui sont parfois très semblables aux nôtres, parce qu'humainement, on partage des choses communes, et parfois très différentes des nôtres, parce que culturellement, on a des appréhensions des choses qui sont très différentes. Et enfin, moi, vraiment, si j'ai une seule chose à dire ce soir, c'est eh ben, l'Afrique, ça se vit qu'en y étant. Voilà.
Très bien, très bien, très bien. Alors juste une petite précision sur le livre en question, pour que ça soit parfaitement clair. C'est en effet un livre de journaliste, et j'ai eu justement un problème avec mon précédent éditeur là-dessus, parce que lui me demandait d'écrire un essai sur l'Afrique de l'Ouest. Je lui ai dit que j'en étais pas capable, j'en avais ni les compétences, absolument pas la compétence, ni l'envie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette forme de témoignage. C'est un livre de témoignage. Comme je l'ai expliqué au tout début, je leur donne la parole. Parce que je ne me sens pas en droit de dire quoi que ce soit. Où j'ai pris la parole dans ce livre, c'est essentiellement dans les introductions, pour simplement remettre dans le contexte et citer ce que j'ai cité au tout début, c'est-à-dire d'où nous viennent les préjugés, repartir sur l'histoire en règle générale, et notre histoire en Afrique en particulier. Mais ce livre, il y a 300 pages, je dirais 250 pages, ce sont des témoignages recueillis sur place. C'est donc eux qui ont la parole, ce n'est pas moi qui ai la parole. Ça, c'était la précision que je voulais vous donner. Je n'ai surtout pas la prétention de... Et je suis tout à fait d'accord, il serait d'ailleurs intéressant, s'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole, qu'elles la prennent justement ce soir à ce niveau-là.
Il n'y a plus qu'un. Après, ouais. Il n'y a plus qu'un.
Il faut sauver la situation.
Moi, c'est Kouman. Bon, mais je suis burkinabé. D'ailleurs, on ne dit pas burkinabé parce que ça, déjà, c'est un truc que je reprends les gens. C'est Burkina. Donc, si on a été au Burkina et que même les burkinabés ne vous reprennent pas, moi, je trouve déjà pas ça normal. Donc, après aussi, par rapport aux préjugés et tout ce qui en suit, moi, je trouve que aussi, si les Africains se font toujours passer pour les victimes, ça va pas changer, quoi. Ça fait des années que l'esclavage a été aboli. Donc moi, je trouve que quand même il faut qu'il, même entre frères, c'est vrai qu'il y a la solidarité, il y a certains trucs qui sont vrais là-bas, mais des fois j'ai l'impression que un Africain peut vendre même son propre frère pour pouvoir ne pas mourir de faim. Donc après les blancs qui viennent mettre leurs graines dedans, je trouve ça normal, quoi. Normal parce que nous, en tant qu'Africains, il faut pas déjà se laisser faire, faut montrer qu'on est intelligent, faut changer les choses, donc et pas se laisser faire. Donc après, si ça continue à se répéter, si en 2016 il y a toujours des gens qui se... des génocides, des machins, c'est pas la faute du blanc, forcément.
Pas que,
voilà. Donc les Africains, ils ont pas... Ils sont capables d'aller aider le voisin quand tout va bien, et quand tout va plus bien, il est encore capable d'aller le tuer. Donc déjà, moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Donc voilà. Après, bon, je ne sais pas si tout le monde m'a compris, mais voilà, après, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Comme disait Fabienne, il faut vivre là-bas pour comprendre comment on est, comment on vit. Et déjà même, moi je suppose que nous, les Africains, on était tranquilles en Afrique. Et il y a les Blancs qui sont venus déjà bouleverser notre situation, comment dire, notre mode de vie. Et après, nous... Et même le Blanc, il a créé l'argent, il a fait des frontières, il nous a imposé des trucs qui n'étaient pas forcément la religion déjà. Et quand on a fini de prier, on a ouvert les yeux, ils étaient partis avec tout. Donc, après je me dis que maintenant, on prie toujours. Et il y a des choses aussi par rapport à la religion, où les gens ils se disent, bon, c'est la volonté de Dieu si mon enfant meurt, c'est la volonté de Dieu s'il y a ci, s'il y a cela. Mais bon, moi, je ne pense pas que quelqu'un qui tue tout le temps vos enfants, vous ne devez pas le prier, quoi. Donc, si ça a été la volonté de Dieu, ou je ne sais pas. Donc, après, il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours accuser Dieu ou de se battre et d'arrêter les préjugés, même envers les Blancs ou envers les Noirs, et voilà, et avancer dans la vie et ne plus se laisser faire, et puis se dire que maintenant on a été colonisé, maintenant on a pris notre indépendance, et indépendance ça veut dire que voilà, et je sais pas, on a quand même, en Afrique, je trouve qu'il y a de l'or, il y a du diamant, et on dit toujours aujourd'hui que c'est le continent le plus pauvre. Moi, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Donc, voilà. Après, c'est aux Africains aussi de d'ouvrir vraiment les yeux et d'avancer, quoi. Merci.
Très bien. Alors, la remarque sur Burkina et Burkina, tout à fait exacte. Là, on me l'a dit, on me l'a fait remarquer tout de suite quand je suis arrivé. J'ai retenu la leçon pendant les mois où j'étais là-bas. Et puis voilà, les années ont passé, j'ai oublié. Donc, toutes mes excuses, mais vous avez 100% raison là-dessus. Sur le côté victimaire, les gens que j'ai rencontrés n'avaient rien de cet aspect-là, n'était absolument pas dans la victime en disant tout est de la faute des Blancs, etc. Pas du tout, au contraire, c'est des gens qui se battent au quotidien, qui sont très actifs, comme je l'ai expliqué, qui sont très créatifs, qui cherchent, qui avancent. Et donc le discours victimaire ne leur plaît pas non plus, pas du tout même. Ils cherchent à avancer. Je ne sais plus, c'était Alexandre Babila qui me disait, mais bon, la colonisation, oui, bien sûr, ça a fait beaucoup de dégâts d'ailleurs au niveau culturel, comme vous l'avez dit, bien sûr, mais il faut avancer. Hein, quel pays n'a pas été occupé au cours de son histoire? C'est ce que me disait Alexandre Babila. Il faut avancer maintenant. Bon, on a été colonisé, oui, c'est un fait. Bon, il y a aussi, alors, il faudrait peut-être revenir sur la situation économique et politique aujourd'hui, et la situation financière, parce que les pays africains ne sont pas les seuls à subir les affres de la mondialisation, comme on l'appelle, les affres de la société, de la finance internationale, c'est clair et c'est net, mais tous ces gens-là ne sont pas du tout dans le discours victimaire. Que ce soit les altermondialistes d'ailleurs, que ce soit des chefs d'entreprise dont je parlais, je pense à tous ceux qui se battent au quotidien pour essayer de faire avancer les choses. Donc, d'histoire victimaire, ils n'en veulent pas non plus. Le passé, c'est une réalité. Il faut connaître l'histoire. Il faut savoir ce que ça signifie. Il faut non plus, je pense, le débat, oui, a certainement eu lieu dans le jeudi en question, au propos de l'action des ONG, la vision qu'on peut avoir quand on arrive là-bas. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup d'ONG qui font un excellent travail et d'autres beaucoup moins, au moins qu'on puisse dire. Mais c'est, faut voir aussi ces deux visions un peu compassionnelles que l'on peut avoir, qui remplit aussi un vide et sur lesquelles on peut se poser un certain nombre de questions, c'est sûr. Mais vous avez bien raison de le souligner, c'est aux Africains eux-mêmes d'avancer, c'est aux Africains eux-mêmes de faire avancer les choses, c'est sûr. Voilà, je pense que là-dessus, la remarque me paraît tout à fait juste. Mais il ne faut pas oublier ni l'aspect politique, ni l'aspect économique, ni l'aspect social, ni l'aspect financier. On est tous victimes à un niveau ou à un autre. Ça, c'est aussi une réalité. C'est évidemment. C'est une grosse réalité. Mais je crois que l'Afrique, et je suis aussi le monde diplomatique qui disait ça, que c'est le deuxième moteur de croissance, le deuxième continent moteur de croissance.
C'est la France, hein,
après l'Asie, actuellement.
8% de croissance en
Afrique. Hein. 8% de croissance en Afrique. Oui, je
sais, c'est exact. Mais nous,
on est à 0. Oui, oui, puis oui, plus de 5% que les 10 dernières années.
La croissance, en plus, elle est grâce à l'Afrique. Parce que le franc CFA nourrit les Français.
Il faudrait parler du franc CFA.
Le franc CFA.
Qui est géré par le Trésor français.
Par le Trésor du français.
Il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin, bon, c'était pas le sujet du livre. Et puis je dis au colonialisme français.
Je peux vous donner des chiffres.
On y reviendra. Il y a la question de la part là.
Si j'ai bien compris, il y a un des problèmes, c'est le découpage colonial qui a vu qu'il y a plusieurs ethnies qui n'ont jamais vécu ensemble, se trouvent dans le même état. Est-ce que les groupes dont toi tu parles, les syndicats des paysans, des gens qui replantent, est-ce qu'eux sont capables de franchir ces clivages entre les tribus? Je ne sais même pas comment il faut le dire, ethnie. Ou est-ce que ça reste dans le même. Je ne sais même pas comment vous dites ça.
Je crois qu'il y a une citation qui me vient à ce niveau-là, qui n'est pas de moi. C'est d'un auteur africain, je crois, qui disait qu'il y a deux tribus en Afrique, les nantis et les laissés pour compte. Voilà, alors, au niveau des ethnies, il faudrait demander. Vous demandez de revenir. Je crois qu'il y a 62. Ethnies différentes au Burkina, c'est bien ça. Bon, et en effet, les ethnies, les frontières ont été créées de manière tout à fait artificielle, mais là, il faudrait revenir dans l'histoire. Des aberrations de lignes tracées sur la carte, etc. Mais peut-être que vous pouvez en dire.
Les ethnies, ça n'a rien à voir. Il y a des ethnies qui ont muté. Il y a des ethnies qui ont muté, qui c'était des cousins, qui se sont déplacés, mais le découpage n'a rien à voir avec les ethnies, en
exactement.
Fait. Ça n'a rien à voir.
Ça a été fait de manière totalement artificielle. Il faudrait relire à ce propos un livre qui paraît très intéressant, qui a été publié, c'est le rapport Brazza. Le rapport Brazza qui a été rédigé en 1905, et déjà qui souligne comment se passait exactement l'exploitation coloniale à cette époque-là. Qui n'a pas été publié pendant. Il a été publié par le Passager clandestin, je crois que c'est l'année dernière, ou 2014. Donc, c'est un rapport qui n'a jamais été publié en France. On peut se poser la question pourquoi. Et pourtant, rapport Brazza avait été chargé d'aller sur place, voir comment se passait la colonisation. Et il dénonce déjà des aberrations. Boko Haram qui enlève des enfants pour faire pression, ou des femmes pour faire pression sur la population. Les colons français en 1905 n'hésitaient pas à le faire. On enlevait des femmes et des enfants pour obliger, c'était l'époque du travail forcé, pour obliger les gens, les hommes à travailler sur les terres des grandes exploitations de l'époque. Hein, il faudrait revenir, mais ça c'est toute l'histoire évidemment. Mais en effet, les frontières ont été créées de manière tout à fait artificielle, les traits sur des cartes, sans tenir compte absolument des ethnies. On va retrouver des ethnies qui vivent soit d'un côté de la frontière malienne, de l'autre côté de la frontière burkinabé. Voilà. C'est évident.
Est-ce que la société civile d'aujourd'hui arrive à franchir cette entrave artificielle?
Est-ce que la société civile d'aujourd'hui arrive à franchir cette entrave artificielle?
Très bien. Déjà au Burkina, il y a les parents à plaisanterie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est des ethnies qui ont le droit de plaisanter de trucs graves sans se faire du mal. Déjà, je pense que c'est grâce à ça déjà que, par rapport au départ de Blaise, il n'y a pas eu des meutes et tout comme en Côte d'Ivoire. Voilà, donc du coup, les gens ils vivent parfaitement en cohésion maintenant, je veux dire. Voilà.
Ouais,
c'est vrai que il y avait la Haute Volta. Donc la Haute Volta, ça a délimité quand même jusqu'à Boaké, qui rentre vraiment dans la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que le pays mandingue, ça réunissait beaucoup. La Guinée, le Mali et autres, voilà, qui rentrent maintenant dans le Burkina. Donc c'est vrai que, mais après, ça fait des années, quoi. Donc maintenant, on peut dire qu'on, au niveau du Burkina et du Mali, il n'y a pas de souci. Mais après, en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, bon, je ne sais pas. Je ne peux pas trop dire.
C'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué.
C'est pas bien. Il y a des abbés qui vivent en Côte d'Ivoire.
Non, pour revenir à ce que vous disiez, encore un préjugé, les frontières sur les livres, c'est des traits. J'ai eu l'occasion d'aller au Burkina, sur du pays, sur les coins, au Burkina Faso, là, que vous parliez. Vous passez du Burkina au Ghana. J'insiste, je suis comme un monsieur, ça fait très longtemps que je suis revenu du Burkina. Et vous passez au Ghana et à la Côte d'Ivoire, vous entendez la même langue, ce sont les mêmes personnes, ils vivent pareil. C'est vraiment là aussi un préjugé, c'est qu'un trait sur nos livres de géographie. Les gens ne prennent pas un passeport, n'ont d'ailleurs pas de passeport, pour franchir toutes ces frontières, ces pseudo-frontières. Ils ont des cousins de l'autre côté du fleuve, ils ont des cousins de l'autre côté de ce trait. C'est vraiment un problème qu'on se pose nous, hein. Pas eux. Hein. Eux, ils franchissent, ils reviennent, il n'y a pas de souci.
Il y a des groupes du nord du Niger qui tuent les gens du sud du Niger.
Oui, mais c'est professionnel.
Parce qu'on a mis cette population-là et cette population-là, et hop, on les a enfermés dans le même état.
Non, ça ne marche pas.
Et je me demande, est-ce que la société civile dans le Niger est capable de franchir cet antagonisme dans le pays?
Moi, je vais parler de ce que je connais. Pour le Togo, par exemple, c'est évident que ça soit justement par rapport aux frontières. Il y a des ethnies qui traversent forcément les frontières. Les frontières ont été artificielles. Mais le Togo, c'est 6 millions d'habitants, mais c'est 40 ethnies. Mais derrière, il y a aussi eu un système. Bon, il y a eu d'abord le système colonial. Et puis, il y a le système colonial, post-colonial, qui perdure, hein, avec Niasembe, avec son fils qui gouverne aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la mère du président actuel a fait toutes ses études à Rhodes, sachez-le. Et effectivement, il y a toujours des conflits entre ethnies. Et évidemment, comme les colons l'ont fait, les dirigeants aujourd'hui le font. Moi, je me souviens dans l'entreprise que je gérais, il y avait à peu près une quinzaine d'ethnies. Et chacun, évidemment, les dirigeants, c'est divisé pour régner. Donc ils jouent là-dessus. Et quand on s'aperçoit qu'on met en place des projets, on s'aperçoit que c'est complètement artificiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est kabyé ou quelqu'un qui est évé, ben effectivement, ils ont des liens familiaux, ils ont des liens qui se sont distendus par rapport à l'ethnie, même si effectivement il y a 30 ou 40 langues, hein, donc, et même s'il y en a 3 ou 4 qui sont, je dirais, dominantes. Hein. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et que le fait colonial a quand même fait un grand mal et continue à perpétuer ça à cause plutôt des dirigeants qui sont en fait encore nos mandants. Hein, et ça c'est la réalité. Quoi. C'est la réalité de la vie des gens. Quoi, hein. Et quand on est Kotokoli, etc., c'est pas seulement un problème de religion ou d'espace, c'est aussi que ça a été maintenu, voulu, et que c'est cultivé par le pouvoir pour opposer les ethnies les unes contre les autres pour se maintenir au pouvoir. Et en tout cas au Togo, c'est manifeste. C'est dirigé par l'armée et l'armée est tenue par les kabyés, par une ethnie qui a maîtrisé, qui a pris le pouvoir grâce ou à cause des Français. Donc c'est vrai que c'est très complexe aussi, hein, en termes de dynamique humaine.
Non, parce que naturellement, le micro est ici, qu'il ne peut pas passer là-bas.
Hein. Non, mais c'est simplement une question à M. Dupuis, là. Comment vous avez senti l'engagement militaire français dans tous ces pays-là? Vous n'y étiez plus peut-être, hein, mais...
Alors moi, j'ai...
Je vous repose la question pour les gens là-bas.
C'est une question directe à M. Dupuis pour avoir son sentiment par rapport à comment avez-vous senti l'engagement militaire français et la présence militaire française en ce moment en Afrique.
Alors, en ce moment, moi j'y étais donc en 2010 et 2011. D'accord, donc c'était avant ce qui s'est passé. Cette présence militaire a été fortement dénoncée par certains des intervenants. Je pense à Moussa Tchangari, bien sûr, au Niger, hein, puisqu'il était question... il y avait eu l'enlèvement...
Qui c'est ce monsieur?
C'est un altermondialiste nigérien, celui qui a fondé la revue alternative à l'Altermondialaire, et la radio, etc. Et à l'époque, il y avait eu, je crois que c'était en septembre 2010, l'enlèvement de 6 Français, ou de 4 Français et de... deux Africains, je crois un Togolais, etc., à Arlit, dans le nord du Niger, là où sont produits sont les mines d'uranium. C'était important. Et donc, ça avait été l'occasion pour les Français de faire... Il n'y avait pas de base militaire permanente au Niger à l'époque. Et donc, il y a 80 militaires français qui sont arrivés, soi-disant, pour retrouver les otages. Mais on me disait que les militaires français qui étaient arrivés étaient stationnés à Niamey et que les otages, depuis très longtemps, étaient au Mali. Donc, ils disaient que l'État français voyait bien avant ce qui s'était passé, en 2010, hein, et, qu'il avait un intérêt clair et net, non pas à rechercher les otages, mais à protéger les mines d'uranium d'Arlit. L'uranium d'Arlit, enfin l'uranium au Niger, c'est 30% de l'uranium français, hein, qui est utilisé en France. C'est absolument stratégique. Je crois que c'est le chiffre qui m'a été donné. Voilà. Alors ça, c'était important. La situation était déjà assez tendue à l'époque. Quand j'étais à Agadez, j'y suis allé sans autorisation du consulat de France à l'époque, parce que je connaissais quelqu'un sur place qui m'avait conseillé d'y aller. Je suis revenu d'Agadez. C'est vrai qu'il n'y avait absolument personne. Il n'y avait pas d'Européens, il n'y avait pas de Blancs, etc. Et que c'était tendu. Je sentais bien la tension. Quand je suis redescendu à Niamey, la veille de mon départ pour le Mali, j'allais vers Gao, etc. Je devais prendre un bus très tôt le matin. Et c'était, je me souviens très bien, le 7 janvier 2011. Et le 7 janvier 2011, donc, il y a eu deux otages français. J'étais dans ce restaurant, c'était le Maquis toulousain, je ne sais pas si vous vous souvenez. Deux jeunes otages français qui ont été enlevés. C'était un jeune qui était, je crois, un humanitaire, qui était sur place, qui se mariait avec le témoin de son mariage. Bon, ils ont été tués dans les 24 heures qui ont suivi, parce que Sarkozy, à l'époque, a décidé de donner l'assaut. Et c'est abouti automatiquement à la mort des deux otages. Moi, il se trouve que j'étais dans ce maquis toulousain une heure avant l'enlèvement à peu près. Donc c'était une situation qui était particulièrement tendue, en effet. C'était, par les Nigériens, c'était particulièrement mal perçu, en tout cas, parce qu'ils sentaient qu'il y avait manipulation. Ce qui les intéressait, c'était, pour eux, ce qui intéressait l'État français, c'est protéger la source d'approvisionnement en uranium, donc les mines d'Arlit, mais pas seulement. Il y a eu un contrat qui a été signé avec l'État nigérien pour la mine, je ne voudrais pas dire, de l'Imamouren, je crois, qui est appelé à devenir, qui sera la deuxième mine d'uranium au monde et la première, la plus importante en Afrique. Bon, un contrat qui, bon, il y a eu toute une renégociation au niveau du contrat aussi qui lie l'État français à Areva, l'État nigérien à Areva. Ouais, là-dessus, c'est intéressant. Et voilà.
C'est l'histoire de l'avion du président qui est derrière ça aussi, derrière ce contrat sur cette mine-là. Il y a l'histoire de l'avion du président nigérien qui a été payé par hein, l'État français directement à Dassault.
Oui, la nouvelle, pardon.
C'est rentré. Oh là là.
Le président africain.
Je peux dire un
mot. Il est soufou ?
Oui.
On est soufou ?
Au Tanger.
Oui, je voudrais dire un mot. Moi, je trouve dommage. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous parle de la société civile africaine. Il y a des membres d'associations qui sont en contact avec différentes sociétés d'Afrique. Et pour connaître la richesse de cette société civile, sa résistance à toutes les difficultés, et pour qu'on puisse établir une relation saine avec... Moi, je suis de l'association avec un village du Burkina. On a beaucoup de mal à établir une relation durable parce qu'il y a effectivement des a priori, etc. Alors, vous nous aviez parlé d'un certain nombre de choses dont vous alliez nous parler. Et là, je pense qu'on retombe dans le défaut de notre société intellectuelle occidentale. On est dans l'analyse des réalités de la domination, du néocolonialisme, aussi de ça. On parle de nous. Et je trouve dommage, parce que ça, on a souvent l'occasion de parler des méfaits de la mondialisation, des méfaits des découpages africains, etc. Mais on n'a pas encore beaucoup parlé de la société civile africaine. Et pour des membres d'associations qui souhaitent établir ces liens ou renforcer ces liens de connaissance, d'amitié, d'utilité, j'ai l'impression qu'on perd un peu du temps ce soir.
C'est possible, mais bon, alors là, c'est le débat hein, qui est amené, qui tourne dans le sens que vous
voulez en Afrique.
Que vous désirez, après tout. Moi, je réponds aux questions que l'on pose. Je veux bien parler, au contraire, avec plaisir, de la société civile, davantage de la société israélienne africaine. Mais si vous pouviez préciser un petit peu les questions, il y a un passage dans le livre où j'insiste particulièrement sur le Burkina, paradis des ONG, où je donne la parole, encore une fois, à des Burkinabés qui nous disent leurs sentiments par rapport à l'action des ONG, comment ils le perçoivent, comment ils le ressentent, comment c'est vécu sur place. Voilà, ça peut être un élément de réponse, mais je pense que, en gros, deux mots, c'est pas moi qui vais parler à leur place, encore une fois. Ça serait dommage. Je leur donne la parole dans le livre, mais justement, au niveau des relations, au niveau des ONG, je voudrais pas caricaturer, mais il y a le pire et le meilleur, c'est l'évidence même, que les relations sont pas faciles, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il faut prendre le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller sur place, mais on peut pas tous prendre le temps de vivre 10 ou 20 ans. De toute façon, voilà, c'est une possibilité, c'est sûr. Quand on est journaliste, en plus, on prend plus le temps de rencontrer du monde et des gens, mais on ne peut pas, on ne vit pas sur place pendant des années. C'est relativement rare, c'est possible, quand on est un correspondant permanent. Et pour revenir à votre question sur la société civile africaine, je ne sais pas, il faudrait poser des questions plus précises là-dessus pour essayer d'éclairer. Mais je pense qu'il y a un tas de gens ici qui sont très bien placés, beaucoup mieux placés que moi pour y répondre, d'ailleurs, parce que vous avez une expérience, un vécu à ce niveau-là que je n'ai pas, donc je ne peux pas me substituer à des personnes qui peuvent répondre beaucoup mieux que moi à ces questions, c'est sûr. J'ai les points de vue, je les présente dans le livre, mais je n'ai absolument pas une... Je ne peux pas vous donner une réponse plus précise à ce niveau.
Est-ce qu'on pouvait justement brièvement nous dire, puisque tout le monde va lire le livre,
ils ont tort.
Ce que vous avez perçu de la perception des Africains vis-à-vis
des associations.
Tout à l'heure, vous avez employé un mot compassion.
Ouais.
Et je crois qu'on a. On est peut-être là-dedans aussi.
Certains, c'est très différent. Les réactions sont tellement différentes. J'ai eu des réactions extrêmement négatives, en effet, sur l'action des associations et des ONG. Et je les reproduis dans le livre. Enfin, je leur donne la parole. Mais je me souviens, écoutez, mon arrivée au Burkina, deux ou trois jours après, j'étais à Ouagadougou, et je me souviens d'avoir rencontré une Française qui était à la tête d'une petite association. Évidemment, je ne citerai pas ni le nom de l'association ni son nom à elle. Et je me souviens, c'est caricatural hein, ce que je vais vous raconter, mais ça m'avait frappé, j'arrivais juste au Burkina. Et qui était en train, on était dans une sorte de restaurant plein air, évidemment, un maquis. Et elle mangeait, elle avait commandé à manger, elle m'avait conseillé de prendre la même chose, donc j'arrivais, j'étais un peu hébété par la chaleur, pour être franc, et l'estomac n'était pas encore en place. Et donc, elle a mangé à peu près la moitié de son plat, et ensuite, elle a arrêté, elle a dit « ça, je le donne au serveur qui est là, pour eux, ça leur va très bien ». Et elle venait de m'expliquer pendant 5 ou 10 minutes quel était l'objet de son association. J'ai trouvé ça caricatural, évidemment. C'était là, on était en 2010, quoi. Voilà, c'en est un exemple. Mais je pourrais c'est une anecdote, mais qui me semble assez révélatrice. Maintenant, j'ai rencontré Alfred Sawadogo. Alfred Sawadogo, il est à tête d'une grosse association ONG, c'est Sahel Eco, Burkina. Et ils font un tas d'actions. J'y suis allé, d'ailleurs, il m'a demandé d'aller sur le terrain, de voir sur place ce qu'il faisait, etc. Et pour qui il a été, à l'époque de Sankara, il avait été nommé par Thomas Sankara pour précisément diriger l'action des ONG au Burkina Faso. Et il m'a dit, jamais les ONG n'ont été aussi efficaces. Bon, peut-être pas le contraire, mais voilà. C'était pour essayer, parce qu'il disait, Sankara disait que les ONG... Et puis il faut voir comment ça... Oui, Sankara disait que les ONG, avec les ONG, le Burkina perdait un peu le sens, l'âme de son pays, en fait. Donc il fallait quelqu'un de Burkinabé pour diriger un petit peu, coordonner tout ça. Pourquoi pas, en effet. C'était une autre conception. D'ailleurs, à ce propos, il y a un film qui est un documentaire très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Capitaine Thomas Sankara, qui va passer d'ailleurs à la Strada jeudi prochain. Enfin, ça, c'était... Voilà. L'action des ONG, il y aurait beaucoup à dire. J'ai entendu, je pourrais vous citer des passages d'un journaliste burkinabé, ça me paraît intéressant, qui ironise à ce propos et qui explique dans une sorte de canard enchaîné burkinabé, je ne me souviens plus le titre, désolé, et qui ironisait à ce propos et qui expliquait comment il fallait faire en tant que burkinabé pour capter une partie des pensions de retraite des Européens plus ou moins culpabilisés par la situation, et avec beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie, évidemment. Et qui disait que finalement, il y en a beaucoup qui vivaient du sida et qui en vivaient bien. Si certains mouraient, certains en vivaient bien. C'est le discours que j'ai entendu de la part de Smokey, le rappeur, de la part de Sam Skaleja, le musicien, qui était extrêmement critique par rapport aux grosses ONG, surtout les représentants des grosses ONG sur place, qui vivaient dans le luxe, avec 4x4 et compagnie, mais ça, c'est pas spécifique à l'Afrique, mais bon, on le retrouve en Asie, on le retrouve dans beaucoup d'Amérique latine d'ailleurs, et qui vivaient bien, et très bien. Mais ça, il parlait des expatriés, des représentants permanents, etc. Et puis, j'ai rencontré des gens, des petites associations, qui se battent vraiment, qui n'essayent pas de changer tout et rien à la fois, mais qui se battent vraiment sur le terrain pour essayer de changer les choses concrètement, équiper une école, etc., équiper un centre de soins, etc., et qui vont, pendant des années et des années, parce que c'est un combat à long terme, qui vont nouer des relations personnelles, des relations d'amitié, avec des échanges réels, permanents, avec un traitement d'égal à égal, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident ce qu'ils vont faire, mais évidemment c'est au Burkinabé de décider, etc., qui vont faire un boulot extraordinaire, et qui sont dans une véritable relation d'amitié, et qui avancent, et de solidarité, parce que bon, solidarité, compassion et solidarité, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même conception, la même... Ça, vous le savez très bien aussi. C'est difficile de résumer.
Moi, je me pose souvent la question, est-ce que la société civile africaine est politisée ? Parce que je rencontre toujours des Africains qui ont une analyse tellement pertinente de ce qui se passe, ça me donne l'impression qu'ils sont sensibles à la chose politique. Contrairement à chez nous, où on est enfin, ici peut-être ce soir, mais après, globalement, enfin, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Est-ce que des soirées comme ici, ça peut exister en Afrique, dans la journée, le soir, j'en sais rien. Et est-ce que les Africains entre eux parlent politique ? Est-ce que la chose politique est pratiquée couramment, quoi, voilà.
Bon, les gens que j'ai rencontrés, je donne la parole tout de suite là. Mais les gens que j'ai rencontrés étaient en effet souvent très politisés, le plus souvent. En effet, ils avaient un discours politique. Ils n'étaient pas dans un mouvement politique, c'est autre chose, dans un mouvement syndical, mouvement intermédialiste, mais ils avaient un discours très politique. J'ai rencontré beaucoup de lucidité, beaucoup d'ouverture d'esprit d'ailleurs, et une clarté, une clairvoyance assez impressionnante par rapport à la situation internationale, par rapport à la situation politique, par rapport à la situation économique, par rapport à l'histoire, par rapport à
leur pays,
par rapport à la réalité de leur pays, c'est sûr. Moi, ce sont des gens que j'ai rencontrés, mais je ne peux pas, à partir de là, généraliser. Je ne peux pas me permettre. Je leur donne la parole, mais je ne peux pas généraliser. Ce n'est pas moi qui peux répondre à cette question. qui peut-être...
Je vais dire, c'est vrai que il y a 10 ans au Burkina, on écoutait beaucoup France Info, Africa numéro 1, bon, des infos qui restent quand même européens. Donc on écoute, on tient les informations extérieures de là. Maintenant, avec Internet, on va directement chercher l'information sur Internet. Ça se propage plus vite et on a...
En ville, pas à la campagne.
Bon, pas la... Oui, voilà, pas à la campagne, mais en ville, oui. Mais bon, maintenant, avec la campagne, il y a plein de gens qui ont des portables maintenant. Bon,
partout.
Donc, ça se propage de plus en plus. Mais bon, le problème aussi, c'est que l'information que moi, je veux recevoir... si je dois le transmettre, le dire à quelqu'un d'autre par rapport à ce que j'ai entendu, ça se déforme. Donc, et l'autre l'autre que j'ai dit l'information va aussi le dire autrement. Donc du coup, c'est pas vrai, vraiment vrai les versions propagées quoi. À certains moments. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on essaye d'être plus ouvert, de dire vraiment les choses maintenant. Avant, c'est vrai qu'on avait peur par rapport à Blaise, et depuis qu'il y a Smokey, et voilà. Donc là, maintenant, on commence vraiment à ne plus avoir peur, à même à aller jusqu'à mourir pour dire ce qu'on pense vraiment de la situation. Voilà. Donc, si j'ai répondu à la question.
Moi, les réseaux sociaux, c'est vrai, la révolution Internet a fait un très grand bien. Moi, je communiquais avec les délégués du personnel, parce que comme il y avait un système aussi de mouchards et de maîtrise, hein, de vouloir maîtriser la communication, hein, pour ne pas faire des réunions, je communiquais avec les délégués du personnel par Facebook et par ce biais-là. Et effectivement, la société civile est en train, n'est pas dupe du tout de la situation, de la situation économique, politique, de tout ce qui se passe au niveau. Et elle est en train, effectivement, de mûrir et de grandir. Et de mener des combats mais qui sont des combats vitaux quotidiens mais elle est en train de moi j'ai bien ressenti ça cette dynamique là d'une vision politique mais au sens quotidienne du terme hein, et la société civile est en train de bouger là. C'est très clair effectivement il y a l'armée et les dirigeants et je parle pour le Togo. Et puis des élections complètement bidons. Quand on entend les journalistes parler des élections, mais c'est hallucinant. Puisque que ce soit les élections au Mali ou que ce soit les élections au Togo, ben, c'est des billets qui sont distribués suivant les catégories, etc., pour que les gens aillent voter. C'est inimaginable. Mais les gens ne sont pas dupes. Avant, ils prenaient les billets, ils allaient voter pour ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, ils prennent les billets. Mais ils sont pas dupes. Ils votent pas pour les gens que... Bon, alors ils sont obligés de bourrer les urnes pour que... Bon, mais ils sont pas dupes et la société est en train d'avancer. Moi, je le vois, je l'ai vu et je vais le voir bientôt. C'est prodigieux quand même. Hein. C'est intéressant. Mais c'est comme notre société, je trouve qu'ils sont beaucoup plus conscients que nous de la situation... de la corruption, de la démocratie représentative qui ne représente rien, parce qu'effectivement, ils vivent des situations extrêmes. Ils sont un peu plus conscients que nous du monde tel qu'il est.
À propos de la maturité politique, juste un petit mot, ce qui s'est passé au Burkina depuis 2013, c'est assez exemplaire.
Ouais. Hein, au Sénégal aussi.
Au Sénégal aussi. Ouais, mais même au Bénin, il y a eu des élections récemment, où le Premier ministre, je crois, a été battu.
Tu visites en Afrique aussi.
Oui, oui, non, mais bon, parce qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, oui.
Voilà, c'est pour ça que je cite ces pays-là.
Bien sûr.
Mais alors, si on part sur la Tunisie, moi, je veux bien. Non, mais c'est, Bénin, pareil, le Premier ministre en place a été battu, la reconnaissance des faits, c'est tout récent aussi.
J'avais une question plus géopolitique. Est-ce qu'au cours de vos entretiens, vous avez pu mesurer l'influence de la Chine en Afrique? Je pensais par exemple à l'Éthiopie où la Chine avait beaucoup d'argent en échange de terrain. En Algérie aussi, où les Chinois sont venus construire les autoroutes. Donc je ne sais pas si vous avez eu des informations là-dessus.
Oui, alors donc l'Éthiopie c'est de l'autre côté, l'Algérie aussi, ce n'est pas, c'était pas. Moi j'étais en Afrique de l'Ouest. Mais c'est vrai que oui, on a parlé au Niger entre autres, on a pas mal, beaucoup parlé de l'influence de la Chine. Mais justement, je reviens à Moussa Tchangari, cet altermondialiste, qui disait qu'à la limite, en effet, parce qu'il dénonçait, il disait que souvent les conditions d'exploitation, c'est le terme, des travailleurs nigériens étaient pires, parfois, avec les Chinois, mais il disait qu'il vaut mieux tout. Il vaut mieux encore les Chinois plutôt que les Français. C'était l'analyse qu'il en faisait. Parce qu'il voulait absolument couper tous les liens avec la France. Voilà. Jusqu'à la langue française, jusqu'à la culture française. Il citait des langues comme le Haoussa, qui est une langue qui est parlée dans toute une partie de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait préciser où exactement. Et qui est une langue qui sait s'adapter parfaitement d'ailleurs à l'évolution du monde moderne. Ça a été cité, souvent ça a été précisé.
Oui, moi je voudrais faire part d'une réflexion et ma question, c'est, enfin, ma question intérieure, c'est en fait comment mieux connaître les Africains. Donc il y a deux choses, Fabienne en parlait, faudrait, si c'est possible, avoir des séjours relativement longs, parce que des séjours de 15 jours, voire 3 semaines, ce n'est pas suffisant, même si on les renouvelle assez souvent. Donc ça c'est une chose, aller là-bas. L'autre possibilité, c'est accueillir les Africains. Ce n'est pas facile. La première des choses, c'est au niveau administratif, les visas sont très très difficiles. Les personnes qui viennent, quel va être leur comportement lorsqu'elles vont revenir dans leur pays? Comment elles sont désignées pour venir, même si elles sont invitées? Donc tout ça, c'est pas facile. Et j'aimerais avoir une recette. Il n'y a peut-être pas de recette. Mais nous, dans notre petite association, on essaie de donner la priorité aux échanges et on essaie chaque 2 ans, quand on fait des rencontres, d'inviter des Africains, des Africaines d'ailleurs. Hein, la dernière fois ou une des dernières fois, c'était 3 femmes. C'est drôlement intéressant parce que ces femmes parlent, comme disait Patrick, parlent de leur vécu. Et pour parler de leur vécu, ce sont des gens qui viennent de là-bas, qui sont dans le village, qui travaillent au village, comme nous, quand nous allons là-bas, nous sommes dans les familles au village. Mais c'est toujours sur des temps très courts, et c'est insuffisant. Même après 20 ans d'échange, je trouve que c'est insuffisant. Et je connais des gens qui ont vécu 20 ans, 30 ans dans un pays qui disent... Je ne connais pas le pays, pourtant qui parle la langue. Alors nous, qui allons faire des petites missions, qu'est-ce qu'on devrait dire? On ne connaît rien. C'est très difficile, puisque les sociétés africaines sont complexes. Donc voilà, j'ai un sentiment de ne pas aller au bout de ce que je voudrais connaître. Même en essayant de faire marcher les deux sens, d'aller là-bas et d'inviter. Je ne sais pas s'il y a des...
Juste pour venir compléter ce que tu viens de dire, François. En fait, c'est vrai que même moi, en tant qu'Africaine, je ne comprends pas tout de mon pays. Donc, et ce que je veux juste dire, c'est que j'essaye d'accepter les Blancs, comme on dit chez nous, comme ils sont. Donc, il faut que les Blancs aussi acceptent les Noirs comme ils sont. Et par rapport au vécu et tout, moi j'ai fait du théâtre forum pour revenir. Là, on a fait des trucs. Et même entre Africains, il y a des trucs qu'il faut qu'on change déjà nous. Pour que le blanc, il nous comprenne un peu plus. Et les blancs essayaient aussi de faire un effort envers nous. Bon, moi je suis en France, ça va faire 10 ans. Mais. À faire comme les gens, bon, il y a des réflexions que les gens me font par rapport à mon comportement, par rapport à la façon dont je parle, et je veux juste dire, je ne peux pas tout oublier de mon pays. J'ai vécu 30 ans dans un pays, ce n'est pas du jour au lendemain que je peux oublier ce que j'ai vécu. Donc j'apprends à connaître les Blancs en étant dans leur pays. Donc, petit à petit, je sais comment vous fonctionnez. Je sais qu'ici, il ne faut pas parler d'argent. Je sais qu'ici, il ne faut pas parler aussi. Et moi, je veux quand même rester. Voilà, je veux quand même rester comme je suis. Et c'est difficile. Voilà, donc. C'est ça qui est la vérité, quoi. On ne veut pas faire des préjugés, mais au final, même moi, je viens à me dire, ah, les blancs sont ci, les blancs sont ça. C'est parce que j'ai tellement eu des réflexions, j'ai tellement vu des comportements que avant je ne comprenais pas. Et que je me disais, oh, pourquoi ils sont comme ça? Mais bon, après, j'ai compris, ah oui, tu es en France quand même, et ici, on doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Même maintenant, je peux dire que peut-être que j'ai dépassé le blanc. Bon, j'ai pas dépassé le blanc. Mais maintenant, comme il disait aussi, la dame, elle a mangé, elle a laissé la moitié. Même moi, au Burkina, je paye un truc, je dis, je vous invite. Si quelqu'un veut goûter, il mange, il goûte ou il mange avec moi. Et même quand je suis arrivée en France, pendant 3-4 ans, j'avais toujours le truc, comment on appelle ça, le réflexe de dire, je vous invite. Mais les gens, ils se disent, elle m'invite chez elle ou... C'était interprété différemment. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté, je prends mon truc, je mange, je regarde personne. Et maintenant, je dis, même si je connais, je dis même plus bonjour parce que c'est ici, c'est comme ça. Je peux rien faire. Donc voilà, donc il y a des petits trucs comme ça que, voilà. On revient à dire les blancs sont si, même les blancs aussi vont revenir à dire les africains sont si, sont ça. C'est comme ça, c'est la vie.
C'est ça.
Pour répondre à. Un petit peu, évidemment, je ne regrette aucune. Je vais juste citer un passage, la conclusion d'un témoignage, celui d'Alexandre Bagbila, cet éducateur spécialisé dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui concluait et qui disait « Comment ne pas essayer de préserver cette rencontre qui, culturellement, peut être très riche ? C'est parce que l'autre est différent qu'il m'est intéressant. Je peux t'apporter, tu peux m'apporter, si on n'accepte pas ça, je crois qu'on fait fausse route. Qu'on le veuille ou non, il faut que chacun de nous travaille à cette harmonie des cultures. » Essayez de ne pas avoir peur l'un de l'autre. Je crois que le vrai problème, c'est ça. Quand on ne connaît pas l'autre, on a peur. Mais si on fait comme votre Saint-Exupéry, qu'on apprend à s'apprivoiser, lentement mais sûrement, on y arrivera.
C'était sa réponse.
D'être arrivé en Alors, moi, je suis... comme étranger, c'est quand même... une barrière supplémentaire.
Alors moi, je suis jamais descendu plus bas que Marrakech, où j'ai passé 24 heures, donc n'attendez pas de pertinente de ma part sur l'Afrique. J'étais très intéressé par le petit débat sur la géopolitique, et avec ma vision culpabilisante de l'Afrique, oui, j'ai l'impression qu'une des plus grandes fautes de la colonisation, c'est d'avoir déstabilisé la géopolitique de l'Afrique durablement. Ça, je trouve que c'est gravissime. Mais quand on parle de frontières, d'ethnie, à propos de l'Afrique, c'est très bien, mais je ne voudrais pas qu'on oublie de se regarder soi-même.
Exactement.
Et qu'on oublie de regarder la géopolitique de l'Europe, les frontières. Moi, par exemple, je fais partie d'une ethnie qui n'est pas africaine, dont j'estime qu'elle a été assassinée culturellement. Voilà. C'est ce que je ne peux pas m'empêcher de dire, ça ne fait pas progresser considérablement le débat sur l'Afrique, mais voilà, j'avais envie de le dire. Voilà, moi, je fais partie d'une ethnie, vous qui êtes burkinabé, qui a été assassinée, tout simplement. Voilà. Donc, alors, il ne faudrait pas que l'hôpital se foute trop de l'Hôtel Dieu, que les ethnies européennes se foutent trop des ethnies africaines. C'est ouais. Ce que je voulais dire très, très bêtement, très sottement.
Très justement.
Bon, moi je connais pas du tout l'Afrique, mais je pense que même entre nous-mêmes, entre catégories socio-professionnelles, etc., on se connaît pas mieux. Il n'y a pas moins d'ignorance qu'on a d'ignorance vis-à-vis des Africains. Moi je suis du monde agricole et je m'aperçois qu'en sortant de plus en plus de mon monde agricole, eh bien, il y a tout à expliquer. Et tout semble mystérieux. Et moi je ne focaliserai pas sur entre Europe et Afrique. Entre eux, on n'est pas meilleur. Moi j'ai ce sentiment-là très fort. Alors on a tous ce boulot à faire, mais y compris entre nous.
Gracias.
Non, ça va être la dernière chose, qu'après, je voudrais pas parler beaucoup. Juste une chose quand même, c'est que par rapport à l'évolutionnisme, c'est quand même quelque chose d'un peu flagrant, je trouve, qui revient fréquemment. Quand vous disiez que Victor Hugo, que bon, enfin, nos grands hommes, on va dire, ont parlé de l'Afrique d'une façon qui aujourd'hui nous horrifie. En fait, moi, ça me choque pas. Ils étaient dans une période évolutionniste. C'est normal qu'à cette période-là, ils pensaient comme ça, parce que dans l'avancée des civilisations, dans l'histoire, les choses se concevaient comme ça. Qu'aujourd'hui, on me dise « Oh, l'Afrique, mais elle évolue hein !» Alors là, moi, quand on me dit ça, aujourd'hui, c'est plus du tout normal. On en est au postmodernisme, après le postmodernisme. Donc, entre l'évolutionnisme et le postmodernisme, en anthropologie, on a quand même passé plusieurs étapes. Sauf que nous, en France, on les a pas bien vues, et on est un peu resté à l'évolutionnisme. Or, en Afrique, ça bouge. En France, ça bouge. Dans le monde entier, ça bouge. C'est le principe d'une société. Ça bouge. Depuis qu'une société existe, elle bouge. Alors, pas forcément vers le bien, pas forcément vers le mal. Elle bouge pas comme ça, comme une espèce de... Comme nous, notre civilisation serait partie du moins bien et aujourd'hui arriverait vers le mieux et les Africains nous courraient derrière. Ça, va falloir quand même qu'un jour, on arrive à se séparer de cette idée parce que nos grands hommes, qui depuis Victor Hugo, etc., ont continué à réfléchir, ils ont complètement lâché cette idée-là, quoi. On n'est plus du tout dans une courbe ascendante, on est sur des sociétés qui effectivement bougent énormément dans toutes les sociétés du monde, et Dieu sait s'il y a des sociétés différentes. Donc c'est juste pour dire que des fois, il faut qu'on resitue un peu nos discours en essayant de voir par rapport à l'histoire et par rapport à l'histoire des idées, quoi. Qu'il y a eu du chemin et que c'est bien qu'on arrive à suivre ce chemin, parce que sinon il y a un peu nos grands hommes qui sont devant et puis nous on est un peu à la traîne avec des idées dominantes qui datent un peu. Voilà.
Si notre collègue au fond ne veut pas ce micro, je vais le prendre. J'écoutais après quand tu doutais, François, d'arriver à comprendre comprendre l'Afrique, comprendre les Africains avec nos associations. Eh bien, moi, j'aurais presque un discours inverse. Quand on essaie d'avoir une compagne, une femme, un mari, des enfants, j'en sais rien, quand on essaie de construire quelque chose en France, comme ça a été un peu évoqué dans n'importe quel milieu, je crois que le doute, il fait partie de l'entreprise, de construire quelque chose. Et à la limite, moi, je m'en moque si je ne comprends pas tout de l'autre côté. Par contre, si je suis animé de ce que j'appellerais l'esprit des Lumières, et de quelques fondamentaux où je place l'humain au centre de la démarche, eh bien, oui, les assos que vous êtes, que nous sommes, ont fait des erreurs. On en commet. Mais seulement petit à petit, il me semble que si on capitalise tout ça, au bout d'un moment, on va donner des conseils, on va accompagner ceux qui y vont pour les premières fois, et ainsi de suite. Et petit à petit, on débugle un peu les choses, on les arrondit mieux, on situe les gens, on situe les rôles, on essaie de mieux comprendre. Et moi, je dis qu'après tout, même s'il y a du déchet, ce qui compte, c'est la force, la conviction qu'on a de le mener quand même, et tant pis s'il y a du déchet. C'est mon avis. Et il ne faut pas se flageller. Non, au contraire, il faut continuer, et avoir beaucoup de pugnacité.
Peut-être autrement, des fois.
Et comment ?
Allez, on va faire un grand... rassemblement ici quelque part dans le Val. On va se rencontrer activement. On va faire un banquet. On va inviter tous les gens qu'on connaît qui ont une autre peau que nous et on les rencontre. On mange ensemble, on danse ensemble et on se connaît.
Finalement, quel point commun entre toutes ces sociétés civiles dans tous les pays que vous avez traversés? Vous avez relevé un point commun par le rejet de la France ou un certain rejet de la France?
En Amérique latine, c'est plus le rejet des États-Unis, entre parenthèses, à l'époque où j'y étais. Hein. Mais j'ai trouvé partout d'ailleurs, que ce soit en Asie où j'ai vécu aussi un certain nombre d'années, pour être franc, au Japon en particulier, mais en Amérique latine, un peu partout, que ce soit au Chili, au Brésil, en Argentine, etc., et au Pérou, les sociétés civiles, et évidemment en Afrique, des sociétés, les mêmes caractéristiques, je dirais, qu'en Afrique, actives, solidaires, combatives,
et qui se battent et qui font avancer des choses. Mais je pense qu'il y a eu un certain nombre de bouquins, de documentaires qui sont sortis depuis 4-5 ans. On insiste beaucoup sur l'aspect positif, essayer de voir les choses les plus positives, non plus toujours insister sur ce qui ne va pas, mais insister sur ce qui marche, qui avance. Il y a un film récent, j'ai vu.
De Maigre.
Voilà.
Tout le monde l'a vu.
Tout
le monde l'a vu.
C'est encore plus simple. Voilà, et c'est... je retrouve ce sens-là un peu partout. Hein. On trouve des gens simples, mais qui sont. Qui ont une. Mais d'ailleurs, souvent on sort admiratif des. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois de sortir vraiment admiratif et impressionné par les personnes que j'interviewais. Très, très souvent. Des gens qui arrivent à se battre, quelles que soient les conditions, qui continuent à se battre, qui continuent à avancer, qui gardent une force impressionnante, quelles que soient les conditions. C'était d'autant plus impressionnant en Amérique latine parce que, en plus, j'étais amené à traiter un sujet difficile, délicat, douloureux, et c'est que je les amenais à revivre des moments de leur vie qui étaient extrêmement difficiles, évidemment. Donc c'était totalement différent. Mais toujours cette force, cette volonté d'avancer et en dépit de lutter pour cette humanité profonde, ça on la retrouve absolument partout. C'est ce qui fait que j'ai toujours envie de continuer d'ailleurs de voyager. Ça, fondamentalement, c'est ce qui m'intéresse. Même si je ne reste pas forcément longtemps dans chaque pays.
Oui, juste très très brièvement pour terminer. Ça questionne sur justement sur l'action de cette société civile, enfin les interactions de cette société civile, justement. Est-ce que ça ne nous montre pas que le changement, la transformation, elle viendra de la société civile partout,
ouais.
Et pas ni des politiques, ni des élus, ni des partis, ni des gens au pouvoir, quoi. Elle viendra de là.
Ouais.
Donc peut-être une dernière intervention, ou s'il y en a une, et puis...
Jean ?
Oui.
C'est pas que je vais faire la dernière intervention. Hein.
Oh, ça, la fausse modestie.
Est-ce que les jeudis en question pourraient faire une journée ou une soirée comme ça sur les associations qui allons dans les cités HLM, dans les prisons, chez les marins-pêcheurs, chez les paysans, pas si loin. J'ai pas envie de dénigrer mes copains africains, mais je me dis, comme l'a dit le collègue paysan, que si déjà, sans aller si loin, sans vouloir faire du bien aux Noirs, sans vouloir faire du bien à une partie de la population, regardez tout simplement comme... regardez pour comprendre et que peut-être pour parler à quelqu'un qui vit dans les HLM. Je parle pas d'un Africain qui vit dans les HLM, je parle d'un bon Français comme nous là, qui vit dans un HLM. Et est-ce qu'on pourrait pas passer chacun d'entre nous une dizaine d'années à partir de maintenant dans un HLM ou sur un bateau de pêcheur pour comprendre pourquoi le pêcheur a du mal à vivre et sans aller faire chier l'Africain en lui amenant certaines solutions qui sont pas forcément les siennes. Peut-être il les a déjà, même sûrement. Mais pas plus qu'on apporterait des solutions à quelqu'un qui vit dans l'HLM. On pourrait comprendre, ou dans une ferme de 30 hectares, de 500 hectares, ou de 1000 vaches. On pourrait peut-être comprendre mieux si déjà on se posait des questions autour de nous. Et, parce que chaque fois qu'on va en Afrique avec une association, on prend un avion, on prend trois bateaux, on prend six machins, je suis pas sûr qu'on soit cohérent dans tout. Quand tu dis aller de l'avant, oui, pourquoi courir devant alors que à Rodez, t'as des gens dans les HLM qui valent largement le souci qu'on a envers nos camarades burkinabés, togolais, tout ce que tu voudras. Peut-être, on va aller vivre dans les HLM.
Donc c'est une bonne proposition.